1. Dr. Ted Hildebrandt, O.T. Histoire, Lit. E.T. Theology, Conference 11. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt.
Il s'agit du Dr. Ted Hildebrandt dans son ouvrage Histoire, Littérature et Littérature de l'Ancien Testament. Cours de théologie numéro 11 sur les quatre premiers chapitres du livre de Exode. Aperçu du quiz 0000-49. Aujourd'hui, depuis que nous sommes enfin sortis de Genesis, nous allons aborder le livre de l'Exode aujourd'hui, et nous allons mettre cela en place, espérons-le, dans cette classe. Ensuite, en classe, nous terminerons le livre de l'Exode. Alors, commençons par le livre de l'Exode. Je travaille juste avec et ensuite j'essaierai pendant le reste du semestre de rattraper mon retard. Avec toi. Jeudi prochain, c'est important, c'est notre premier examen. Alors garde ça dedans. Esprit. Le guide d'études sort demain matin. Titre de l'Exode 0, 5 0 1h26. Que signifie le titre d'Exode? Ike, ou, ex, en grec est le mot. Dehors, ou, hors de, c'est la préposition, dehors, odos signifie, le chemin, ex odo, donc c'est l'issue. Sortez exit de la pièce. Exode signifie donc, la sortie, et le livre de l'Exode concerne la sortie de quoi? La sortie d'Égypte. C'est donc ainsi. Sortir d'Égypte et la manière de sortir d'Égypte est en grande partie ce dont parle le texte. Enquête sur les principaux mouvements lors de l'Exode 1, 2-7-7h50. Il y a essentiellement 5 mouvements dans le livre de l'Exode et ces 5. Les choses importantes s'assemblent. Le premier serait la naissance et l'appel de Moïse. Nous, je n'ai pas encore rencontré Moïse, mais au début de l'Exode, nous rencontrons Moïse alors qu'il était bébé. Dans la naissance et l'appel de Moïse. Ensuite, quelques barres obliques, 3 chapitres sont à l'appel de Moïse. Moïse devient donc un acteur important pour le reste du Pentateuque. D'ailleurs, quand j'utilise le terme Pentateuque, savez-vous ce qu'est le Pentateuque? Oui. William. Oui, les 5 premiers livres de la Bible. Pente, comme Pentagone, signifie 5. Pentateuque signifie livre. Il y a 5 livres. Je devrais dire ceci cependant, n'est-ce pas? Moïse a-t-il déjà vu un livre dans sa vie? La réponse est, un livre comme celui-ci qui a un Machine Translated by Google. 2. Reliure, la reliure des livres a commencé vers 100 après J.C. 100 après J.C., nous avons commencé à avoir livre barre oblique codex reliés ensemble. Avant cela, qu'avaient les gens? Parchemin. Alors Moïse aurait écrit sur des parchemins. Souvent, dans la Bible, quand il est dit « livre » de l'Alliance, il s'agit en réalité d'un parchemin. C'est traduit par « livre » dans notre langue moderne, il faut donc faire un changement là-bas. Maintenant, la naissance et l'appel de Moïse, il écrit le Pentateuque barre oblique Torah, il va donc être l'auteur du premier 5 livres de la Bible. Viennent ensuite les 10 plaies d'Égypte. Moïse descend en Égypte et, fondamentalement, il y aura un duel entre le Dieu d'Israël et le Dieu, Pharaon. Pharaon est considéré comme un Dieu. La question va être, est-ce que ça va être le Dieu Pharaon ou est-ce que ce sera le Dieu Jéhovah? Vas-tu craindre un Dieu, tu peux? Voyez, Pharaon qui a un char qui peut vous renverser, ou allez-vous craindre le Dieu que tu ne peux pas voir. Alors Dieu s'établit. Beaucoup de fléaux sont. Va être un duel entre Pharaon et Dieu. Dieu s'établit dans le 10 plaies d'Égypte. Nous allons donc examiner ces 10 fléaux. La traversée de la mer des roseaux est un événement majeur au moment du départ d'Israël. En Égypte, ils traversent la mer des roseaux. J'ai mis ride si juste pour être un peu désagréable. Vous les gars, je la connais probablement sous le nom de mer Rouge, mais c'est la mer des roseaux. Nous ne savons pas exactement de quelle mer il s'agissait. Le terme hébreu est Yem Suf qui signifie « mer de roseau ». Le texte hébreu ne dit pas « mer rouge ». Le texte hébreu dit « mer des roseaux ». Donc je dis la mer des roseaux. Alors il traverse la mer des roseaux, Dieu divise l'eau, il traverse. Les Égyptiens se sont noyés, c'est grave. La traversée de la mer des roseaux est donc une. C'est un très gros problème pour Israël que c'est à ce moment-là qu'il quitte l'Égypte. Laisse-moi juste finir. Ceci et nous en parlerons un peu plus. Le tabernacle est le suivant. Une fois qu'ils ont traversé la mer des roseaux, ils se retrouvent dans le région sauvage. Dieu leur fait construire une tente pour qu'ils puissent habiter au milieu d'eux. Vous obtenez donc cette structure de tabernacle dont nous avons ignoré de nombreux détails. Parce que chaque planche est mesurée. Ils le décrivent en détail. Y a-t-il quelqu'un de la région de Lancaster en Pennsylvanie? Il y a un vrai. Machine translated by Google. 3. La structure du tabernacle là-bas, n'est-ce pas? On m'a dit ça dans le Lancaster. C'est dans cette région que certains Amish ont construit un véritable tabernacle que vous pouvez passer par la région de Lancaster en Pennsylvanie. J'ai toujours voulu voir. Le tabernacle est construit et Dieu habitera au milieu de son peuple. Il est portable. C'est un peu comme un temple portable et quand il bouge, Dieu bouge avec eux. Certaines personnes ont suggéré que les lamantins, en termes de peau, étaient des vaches marines. Je devenir vraiment incertain sur beaucoup d'animaux. Je veux dire que nous sommes 3000 ans plus tard et que les animaux sont difficiles à identifier. Tout d'abord, ils ont des animaux différents là-bas et donc parfois la traduction est difficile. Alors oui, vache de mer a été traduit. Lamantin. La vérité, c'est que lorsque j'étais là-bas, je n'ai vu aucun lamantin. Je pense qu'il était peut-être là, mais c'est peut-être autre chose. Tout ce que je suis dire est de revenir sur celui-là. Je ne suis pas sûr de la vérité. Désolé de ça, je dois être honnête avec toi. Je veux dire, il y a une grande discussion sur ce que l'animal était. Je n'ai jamais été convaincu par aucune des discussions, donc je suis désolé. Nous trouverons beaucoup d'animaux lorsque nous entrerons dans le Lévitique. Nous parlerons à propos du lapin et du lièvre. Il y a des problèmes quand vous traduisez entre langues avec les animaux, surtout entre les cultures. Ensuite, vous avez la Torah et le dos de la Torah ou de la loi au Sinaï. Le mot « Torah » est un mot juif si vous parlez au peuple juif et dites. Parlez-nous de la Torah en grande partie, c'est la loi du Sinaï et des 10 commandements qui ont été donnés là-bas au Sinaï. C'est l'alliance majeure. Quoi? Était l'alliance majeure dans la Genèse? Cela s'appelait l'alliance avec Abraham ou l'alliance abrahamique. Sur quoi l'alliance abrahamique était-elle basée? La circoncision, n'est-ce pas? Abraham a circoncis son enfant puis l'abrahamique. Alliance, la terre, la semence se multipliant et étant une bénédiction pour toutes les nations qui étaient l'alliance abrahamique. Cela a été réitéré à Abraham, Isaac et Jacob et vers le bas. Voici l'alliance du Sinaï, l'alliance du Sinaï va être basée non pas tant sur la circoncision que sur l'obéissance. Alors Dieu donnera son loi et alors le peuple est censé observer cette loi, cette alliance, qu'il a donnée. Machine translated by Google. 4. E. Il y aura des spécifications et des stipulations. Maintenant, vous venez de lire. Nombre. Israël a-t-il respecté la loi? Non. Et ceux qui l'interrompent ça dès le départ? Ils enfreignant la loi donc ça devient un problème ici avec ce cinétique. Alliance, le dos de la loi. Voilà donc un aperçu sommaire. L'Exode comme grand acte rédempteur de l'Ancien Testament 7, 5 à 9, 24. Maintenant, je veux sauter par-dessus, mais avant de faire cela, je veux revoir ceci et prenez du recul et regardez l'ensemble de l'Exode ici. Le livre de l'Exode est un grand livre de l'Ancien Testament. Quel est le grand acte rédempteur du Nouveau Testament? Tout d'abord, qui est le véritable acte rédempteur, qui le fait dans le Nouveau Testament? Quel est le nom? Jésus. Nous avons quatre évangiles sur Jésus qui nous donnent toute cette histoire historique. Détail. Que est ce qui dans sa vie est considéré comme le point culminant? Oui, c'est sa mort et résurrection, sa crucifixion, sa mort en notre faveur et la résurrection du mort. Voilà donc le grand acte rédempteur du Nouveau Testament, la mort du Christ pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Vaincre la mort est un ennemi assez important pour défaite. Alors Jésus ressuscite des morts et nous donne de l'espoir. Dans l'Ancien Testament, quel est le grand acte rédempteur? Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui conduit le peuple hors du servitude, hors de la servitude de l'Égypte. Ainsi, le grand acte rédempteur dans l'Ancien Testament va être cet exode. Cela sort d'Égypte. Alors, nous viendrons. Revenons Y et vous montrons que c'est énorme. En d'autres termes, comme la mort de Jésus et la résurrection était énorme dans le Nouveau Testament, donc la sortie d'Égypte est énorme. Pour les Israélites, ils reviendront encore et encore sur le fait que Dieu nous a délivrés des mains des Égyptiens et des mains de Pharaon. Nature orale et écrite de la Torah 9, 2, 5, 1, 3, 52. Maintenant, qui a écrit ce document? C'était juste oral. En d'autres termes, est-ce que ça? Le matériel qui nous parvient dans notre Pentateuque / Torah était-il simplement oral? Ou était-ce écrit? Comment ça se passe? Il y aura de grands débats et de la tension entre ce caractère écrit et son oralité. Donc ça arrive dans Machine Translated by Google. 5. De plusieurs manières, mais regardons ce que dit la Bible elle-même. Dans le chapitre Exode 17, verset 14, vous obtenez cette déclaration, puis l'Éternel dit à Moïse, comment Dieu est-il communiqué avec Moïse? Est-ce oral ou écrit? Et le Seigneur dit à Moïse. Dieu parle à Moïse. Moïse entend apparemment, donc c'est oral. Dieu à Moïse est oral. Vous dites, Ril de Brent, quand est-il des 10 commandements? Était-ce oral? Ou est-ce que c'est écrit? Ok, c'était écrit. Dieu a écrit les 10. Les commandements sont gravés dans la pierre, n'est-ce pas? Donc Dieu a écrit cela lui-même. Mais, ici et dans la plupart des endroits, Dieu parle à Moïse et il dit à Moïse, écris ceci sur un parchemin comme quelque chose dont on se souvient. Dieu ordonne à Moïse d'écrire ce que Dieu a dit. Donc Dieu va parler à Moïse et Moïse va l'écrire vers le bas. Alors, est-ce que ce Pentateuque / Torah, est-ce que c'est toute une tradition orale transmise à travers des centaines d'années, ou est-ce écrit? Dieu le dit, Moïse a reçu l'ordre de écrivez-le sur place. C'est donc important. Au fait, cela suppose-t-il que Moïse sait écrire? Oui. À propos, Moïse a été formé à la cour de Pharaon. Formé par sa propre famille, donc oui, Moïse était une personne très instruite. Dieu dit, écrivez ceci sur un parchemin pour qu'on s'en souvienne et assurez-vous que Josué le lit point. J'ai mal cité les Écritures. Cela ne dit pas cela. Il dit, et fait. Je suis sûr que Josué l'entend point. Voyez-vous ce changement ici? Moïse, tu l'écris, et assurez-vous que Josué l'entende. L'écriture devait elle être lue à haute voix pour que les gens tu pouvais l'entendre. Donc c'était écrit mais d'ailleurs, il y avait beaucoup de choses. Des gens de cette culture qui ne savaient probablement pas lire. Il serait donc lu à eux oralement. Je ne dis pas que Joshua ne savait pas lire parce que Joshua sera probablement écrire le livre de Josué et terminer le Deutéronome, mais il dit de le lire fort pour que Josué puisse l'entendre. Cela va donc de l'écrit à l'oral. En d'autres, les mots, ça dit, Dieu le dit, ça commence oralement. Moïse l'écrit et après, une fois écrit, il revient à l'oral et il est lu devant le peuple. Donc c'est cette danse entre l'oral et l'écrit. L'oral peut-il vérifier le écrit? L'écrit peut-il vérifier l'oral? Donc vous recevez ce genre de chèques et équilibre entre les deux. C'est intéressant tant à l'oral qu'à l'écrit sont mentionnés dans Machine Translated by Google.
6. Exode 17.14.
Si vous allez dans un autre passage, ici dans Exode 24.4, vous obtenez un genre de chose similaire où Dieu dit, Moïse est allé le dire aux gens. Remarquez-le. Oral, Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles et les lois. C'est oral. Moïse leur dit, c'est oral. Il leur parle des paroles et des lois. Il a répondu d'une seule voix. Tout ce que le Seigneur a dit, encore une fois oralement, tout. Le Seigneur a dit que nous le ferons. Alors Moïse écrivit tout ce que le Seigneur avait dit. Voyez-vous cette oscillation d'avant en arrière? Il a dit aux gens ce que Dieu dit, le peuple confirma alors l'alliance en disant que nous le ferions. Puis et Moïse l'écrit. Maintenant, est-ce que c'est des centaines d'années plus tard qu'ils disent que nous le ferons? Dans ce même verset ici, il est dit que Moïse a écrit ce truc. Donc cette oscillation, cette la réciprocité va et vient entre l'oral et l'écrit. Encore une fois, nous voyons celui d'Exode 24.4. Maintenant, si vous passez au Nouveau Testament, c'est intéressant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, le quatrième évangile, il est dit dans le premier chapitre de Jean 1.17, il est dit, car la loi a été donnée, par qui? Moïse. Bon alors. Vous avez une déclaration claire dans le Nouveau Testament, la loi a été donnée par Moïse. Critiques et auteurs bibliques 13, 5, 3, 1, 6, 51. Maintenant, vous dites, Hildebrandt, pourquoi en faites-vous toute une histoire? Nous? Tout le monde sait que Moïse l'a écrit. Réalisez-vous l'une des grandes choses que les critiques? Ils le font toujours et ça se voit, ils font la même chose à chaque fois, ils prennent un livre de la Bible, et il est dit les psaumes de David. Que feront les critiques? Ils diront. Eh bien, ça dit psaume de David mais ça ne veut pas vraiment dire ça parce que David ne l'a pas fait. Vraiment écrire ça. Isaïe, tu connais bien les prophéties d'Isaïe, ce n'est vraiment pas le cas. Isaïe ainsi de suite, il rejette Isaïe et il rejette David. Ça dit. Samuel mais visiblement Samuel n'a pas raison donc claquement, c'est sorti. Eh bien Joshua, tu sais. Joshua n'écrivait pas non plus. En gros, ils s'en sortent et font un excellent travail. Si. La Bible dit que ces gars sont des auteurs, les critiques passeront par là et ils. Machine translated by Google. 7. Essayez de disséquer l'auteur de l'écriture. Maintenant, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi essayer? Débarrasser l'auteur de l'écriture. Ce qu'il essaie de dire, ce sont ces choses. Sont transmis de génération en génération, ce qui signifie qu'ils ne sont que des légendes et qu'ils ne le sont pas vraiment. Historique. Cela ne vient pas vraiment de la vraie personne. Ce ne sont que des légendes sur personne. Que est-ce que ça fait? Vous voyez à quel point cela mine l'historicité des écritures. Cette technique de suppression des auteurs est donc assez courante. Moïse est frappé durement. Oui, Anna. Jean 1.17 dit, car la loi a été donnée par Moïse. Ici, Jésus lui-même fait quelques commentaires dans Jean 7.19.22. Laisse-moi juste lire ces deux versets. Jésus lui-même est enregistré, le premier est chez Jean, le narrateur Jean. Là, dans 1h17, dans Jean 7h19, il est dit ceci, Jésus leur dit alors, j'ai fait un miracle. Et vous étiez tous étonnés. Pourtant, parce que Moïse, dit Jésus Moïse, mais parce que Moïse t'a donné la circoncision. Au fait, est-ce vrai? Moïse a-t-il vraiment leur faire la circoncision? Moïse leur a-t-il ordonné de se faire circoncire? Oui, il a fait. Mais question, leur a-t-il fait circoncire? En fait, c'est écrit ici Moïse vous a donné la circoncision, bien qu'en réalité elle ne soit pas venue de Moïse, mais de les patriarches. Quel patriarche a pratiqué la circoncision en premier? Abraham. Donc le texte note que cela n'est pas venu directement par Moïse, mais par les patriarches. Vous circoncisez l'enfant le jour du sabbat. Maintenant, l'enfant peut être circoncis le sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas enfreinte. Pourquoi es-tu en colère contre moi pour avoir guéri cet homme le jour du sabbat? Arrêtez de juger les simples apparences et faites bon jugement. Ainsi, Jésus dit ici que de Moïse est venue la loi du sabbat et circoncision. Jésus lui-même affirme donc que Moïse l'a écrit. Je dis habituellement que si Jésus et les apôtres pensent que Moïse a écrit, et ce assez bien pour moi. Oui. Je pense. Jésus est Dieu donc il est plutôt bon dans ce domaine. Exode ailleurs dans l'Ancien Testament 16, 5, 2, 1, 7, 41. Comment le livre de l'Exode est-il considéré ailleurs dans les Écritures? Si c'est le grand acte rédempteur de l'Ancien Testament, ce que je vais vous montrer maintenant est que l'Exode dont nous allons parler se répercute sur le reste. Machine Translated by Google. 8. De l'Ancien Testament. Il y aura donc ces échos où, les thèmes de l'Exode 2. Être délivré de la servitude et de l'esclavage et libéré. C'est presque comme si c'était quoi? Ce film ou liberté, vous savez à la fin du film Bravat. Mais cette idée selon laquelle ils sont libérés et que Dieu est le grand libérateur est entièrement basée sur le livre de l'Exode. Vous allez donc entendre cet écho de l'Exode à travers tout le reste de l'Écriture. Vous allez l'entendre, et je veux juste en regarder quelques-uns de cela en termes de ce thème. L'Exode devient une métaphore de la délivrance. La délivrance est le grand acte rédempteur de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Exode chez les prophètes 17, 4, 2, 2, 1, 0, 2. Maintenant, permettez-moi de vous donner un exemple de cela dans les prophètes. En voici un dans les prophètes. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà entendu cela. À Osée 11, 1, il est dit, quand Israël était enfant, je l'aimais. Dieu se représente ici comme quoi? Quand Israël était enfant, je l'aimais. Dieu se représente en tant que père qui aime son enfant. Il dit que quand j'étais mon père et qu'Israël était mon enfant, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, qui est le fils de Dieu. Le fils est Israël. Pharaon a-t-il essayé de nuire au fils de Dieu? Oui. Dieu a-t-il endommagé le fils de Pharaon? Oui. Vous voyez comment ça se passe là-bas. Ainsi, dit-il, hors d'Égypte, je a appelé mon fils. Son fils était Israël donc il englobe la nation entière et le décrit comme la relation dans laquelle un père a son amour pour son fils. La deuxième partie change alors la donne. J'ai des gars. Avez-vous déjà été dans une épicerie et observé des parents avec leurs enfants? Est-ce une catastrophe? J'ai 4 enfants et j'ai appris à gérer l'épicerie. Ce que tu fais, c'est toi. Mettez-les dans le chariot et de cette façon, ils ne pourront pas s'enfuir. Je le recommande donc. Toi. Il suffit de faire attention à la nourriture, surtout s'il s'écrase trop. Maintenant, l'autre chose qui me vient à l'esprit est que j'avais une fille qui avait un très forte personnalité, même aujourd'hui, elle est une forte féministe. Elle a son propre esprit. Depuis qu'elle est toute petite. Elle était donc une petite enfant d'environ 4 ou 5 ans. Jardin d'enfants. Nous étions dans un magasin de type TJ Maxx et je n'oublierai jamais que nous étions. Elle descend l'allée et il y a une allée d'environ 60 pieds de long et elle s'enfuit. Machine translated by Google. 9. Avez-vous déjà vu des enfants fuir leurs parents lorsqu'ils sont dans le magasin? C'est terrible car on ne peut pas les contrôler dans le magasin. Alors elle court le long du allée et elle mesure environ 60 pieds de long. Je regarde et je l'ai juste regardé juste pour voir. Volonté. La plupart des enfants quand ils s'éloignent très loin de leurs parents et qu'elle va s'enfuir. Au coin de la rue juste avant qu'elle ne tourne le coin pour s'échapper, les enfants regarderont ils. Je reviens chez les parents juste pour obtenir une solution. Tu sais ce que je dis, que c'est chez moi. Seul. Alors, généralement, que se passe-t-il au moins avec mes enfants lorsqu'ils partent en voyage? S'arrête là, ils regarderont en arrière pour savoir où vous êtes juste pour avoir une idée de où ils sont. Eh bien, ma fille aînée, elle court là-bas et elle n'a jamais regardé en arrière. J'attendais le look, je pensais que j'allais le voir et voir. Et ensuite je vais sauter dans l'allée suivante et lui couper la parole. Elle est descendue l'allée et je n'ai jamais regardé en arrière. Elle était partie. Regarde ça. Que se passe-t-il avec Israël? Dieu dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte mais le plus j'appelais Israël, plus ils allaient loin pour moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a dit, je les ai fait sortir avec un bras puissant et une main tendue. Et plus je les appelais, plus ils décollaient et s'enfuyaient. Ce verset est donc un classique sur l'exode des prophètes. Exode et Nouveau Testament 21, 0329, 07. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ce verset, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Devinez quoi, dans Matthieu 2.15, souvenez-vous des enfants qui ont été tués en Bethléem. Hérode a tué les enfants et Dieu a averti Joseph et Marie de manière rêve. Il a dit, « Vous devez aller en Égypte pour obtenir une protection parce que Hérode va faire de mauvaises choses ici. » Joseph et Marie descendirent en Égypte. Et puis Jésus quand il revient d'Égypte et qu'il ne retourne pas à Jérusalem. Jésus monte à Nazareth en Galilée. Quand il fait ça, est-ce que Jésus vient hors d'Égypte? Jésus lui-même sort d'Égypte. Ce verset est alors cité de Jésus, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'est accent grave dire Jésus. Alors que est-ce que tu as dans l'Exode? C'est que Dieu appelle son fils Israël hors d'Égypte. Et ce que Jésus lui-même en a sens pour toute la nation d'Israël. En lui-même, il rejoue ce que Dieu a d'autre. Machine translated by Google. 10. Mon fils Israël l'a fait. Vous obtenez donc cet écho en Jésus de ce que la nation d'Israël a fait. Jésus est le nouvel Israël dans Matthieu. Israël a-t-il réussi ou l'a-t-il raté? Israël. La bâclée. Maintenant, vous avez le nouvel Israël qui sort d'Égypte et va-t-il pour le faire correctement. Jésus savait qu'Israël sortait d'Égypte. Et ce que Jésus lui-même va aller dans le désert pour se laisser tenter. Devinez ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4. Jésus sort et va dans le désert et est tenté par Satan. Voyez-vous cela? Jésus devient-il le nouvel Israël? Ainsi, ces choses en Israël, en tant que nation, trouvent un écho dans la personne de Jésus. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, et vous obtenez cela dans les deux sens entre la nation d'Israël et Jésus qui devient le nouvel Israël. Je suis désolé, c'est dans Matthieu chapitre 4 que vient la tentation. Chapitre 3, il est baptisé. Oh, dites-vous, attendez une minute, île de Brent, il est baptisé en chapitre 3, il sort d'Égypte au chapitre 2, et il est baptisé au chapitre 3. Le baptême, quand Israël est-il passé par les eaux. Et Jésus traverse. Baptême. Vous voyez les similitudes ici. Et puis traverser les eaux alors. Va-t-il dans le désert pour être tenté? Ok, dites-vous, ça devient assez bizarre mais... Vous commencez à entendre ces échos. Et ce peut être pour cela que Matthieu a présenté son évangile comme... Ceci pour montrer que Jésus est le nouvel Israël. À prendre ou à laisser, mais de toute façon il y en a. Il se passe des choses là-bas. Cette fois, nous passerons à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ramasse le... L'Exode dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 5, il dit que Jésus est notre... Agneau de Pâques. Maintenant, que font-ils de l'agneau pascal? Vous souvenez-vous? Que? Ils ont tué l'agneau et ont mis du sang où? Tu as un montant de porte ici. Vous avez deux montants de porte et le linteau qui traverse. Ils ont mis le sang dessus. La porte. Alors, l'ange de la mort voit le sang et que fait l'ange? Cela passe. C'est de là que l'on tire le nom de Pessah ou Pâques, l'ange de la mort voit le sang de la porte et passe par-dessus. Qui est notre agneau pascal? Qui est notre agneau pascal? Dont le sang a été mis sur la porte pour que l'ange de la mort nous dépasse. Jésus. Alors Paul dit explicitement que Jésus est notre agneau pascal. Alors que se passait-il d'autre? Jésus, la nuit avant d'être trahi, il a pris. Machine translated by Google.
11. Quoi? Il a pris le pain. Maintenant, cum bien entrez-vous dans vos églises lorsque vous le faites?
La scène du Seigneur ou l'Eucharistie, combien d'entre vous utilisent des pains sans levain? Faire. Certaines de vos églises utilisent du pain ordinaire. Certaines églises utilisent maintenant du pain ordinaire, mais voyez-vous quand Jésus a dit que c'était du pain sans levain parce que quand Jésus fait la scène du Seigneur, que célèbrent ses disciples? Le Pâques. Pourquoi est-ce du pain sans levain? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Parce que ils ont dû quitter l'Égypte en toute hâte et ils n'ont pas eu le temps pour qu'elle se lève. Donc Dieu dit, vous allez sortir d'Égypte si vite, ne mettez pas de levain dans le pain. Parce que vous n'aurez pas le temps de le laisser monter. Ensuite, ils mangeraient pain sans levain pendant 7 jours et comme partie de la fête. D'ailleurs, c'est ce que fait notre Eucharistie, ou la scène du Seigneur, c'est pain sans levain. Maintenant, comment Jésus interprète-t-il ce pain? Ce pain est à moi. Quoi? Mon corps, qui est brisé pour toi. La coupe qu'ils boivent est une coupe de vin. C'est quoi mon sang? Jésus prend-il les symboles de la Pâque et les réinterpréter comme s'appliquant à lui-même. Alors vous voyez même Jésus, prend la croix, ça. La mort et l'effusion de son sang sont symbolisés comme sortant de ces exodes. Symbole. Au fait, je devrais dire que vous êtes au Gordon College. Le Collège Gordon a un merveilleux privilège ici. Nous avons ici un homme unique, le docteur Marvin Wilson. Il est connecté de manière incroyable à la communauté juive de la côte nord ici. Nous avons eu au Gordon College un dîner de Pessah ou de Pâques, organisé par le communauté juive. Il devait y en avoir au Bennett Center, il y en avait probablement 1000. Les gens ici. Nous sommes donc tous allés au dîner de Pâques et c'était vraiment cool. J'ai voulu. Mes enfants y sont allés, alors mes enfants y sont allés et ils ont demandé à tous leurs amis. Nous avons donc eu tout un groupe de personnes. Nous nous sommes mis à table, et tout d'un coup, le rabbin est venu vers moi, je n'ai jamais rencontré ce type de ma vie. Maintenant, c'est clair que je suis un goï, que je suis un gentil. J'avais des cheveux mais peu importe la couleur de ses cheveux et du nez. Montre que je ne suis pas juif. Je veux dire, désolé, ce n'est pas juif. Je veux dire, tu peux le dire rien quand. Regardez. Il s'approche de moi et s'approche de moi et je suis assis à cette table de Pessah. Machine translated by Google. 12. Et il dit, voudriez-vous prier à la réunion? Maintenant, je dis, oh, il y a comme 1000 personnes ici, je suis évidemment un gentil. Je portais ma kippa mais ça, cela ne fait pas de vous un juif. Et donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ce type m'avait demandé de prier devant tout le monde. Donc je ne savais pas ce qui se passait. Après, j'ai surpris le docteur Wilson en train de courir sur le campus et j'ai dit, hé, Marv, ce type a appelé à l'improviste pour prier pour ces gens. Je suis un gentil point. Et il a dit, apparemment, celui qui avait la plus grande cellule familiale du groupe serait invité à prier et vous aviez la plus grande famille. Eh bien, j'ai eu 10 enfants mais ils n'étaient pas tous mes enfants. La plupart étaient tous les amis de mes enfants. Quoi qu'il en soit, si jamais vous obtenez une chance d'aller à un dîner juif de Pâques, faites-le. Quand tu seras assis là, tu seras choqué de voir à quel point une grande partie de l'imagerie pénètre directement dans Jésus. Alors c'est beau si. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à un dîner de Pessah, allez grec. La nourriture est bonne aussi. Pâques est liée à la scène du Seigneur. Alors voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris et en fait j'ai une bonne. Mon ami Dave Messieurson m'a mis là-dessus. Dans le livre de l'Apocalypse, y a-t-il beaucoup des plaies dans l'Apocalypse? Oui. Connaissez-vous les plaies du livre de l'Apocalypse? Beaucoup de ces fléaux font écho aux fléaux trouvés en Égypte. Dans le livre de Révélation, le soleil s'assombrit-il? Oui. Dans le livre de l'Apocalypse, y a-t-il des sauterelles et des trucs qui sortent? Oui. Donc ce que vous avez, ce sont les fléaux de l'Exode qui font écho dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, quand Dieu va faire en quelque sorte tout cela et la terre tremble et toutes ces grosses choses désagréables se produisent dans le livre de dans l'Apocalypse, une grande partie de ces images sont construites à partir de l'Exode. Donc tout ce que je dis c'est ce petit livre de l'Exode trouve un écho dans toute la Bible. Il est une sorte de incroyable. Exode et Psaume 29, 08, 3, 1, 16. Si vous lisez par exemple le Psaume 78, le Psaume 105 ou le Psaume 106, ces psaumes sont juste pleins d'Exode. Ainsi les psaumes ainsi que les prophètes font référence à l'Exode. Maintenant, en parlant des psaumes, en voici un appelé le grand Hallel et celui-ci est effectivement lu au moment de la Pâque. Vous connaissez ce terme parce que vous le dites. Alléluia. Machine translated by Google. 13. Alléluia, d'accord, Yah, et Jéhovah. Donc Hallel signifie, louez Jéhovah, louez-le. Seigneur. Je me rends compte que j'étais baptiste, alors nous faisions toujours, Amen. Mais si tu es charismatique, vous dites, Alléluia. C'était une blague, mais bon. Comme tout le monde a l'air sérieux. Ici, c'était une blague. Le grand Hallel. C'est ce qui est lu au moment de la Pâque. Voici comment cela commence, quand Israël est sorti d'Égypte, donc dès qu'il le fait. De quoi ça parle? Quand Israël sortit d'Égypte, c'est l'Exode, le maison de Jacob des gens de langue étrangère. Les gens de langue étrangère sont les Égyptiens. Juda est devenu le sanctuaire de Dieu et Israël sa domination. Dieu habitait au milieu de son peuple dans le tabernacle. La mer a regardé et s'est enfuie. De quoi ça parle, la mer a regardé et s'est enfuie. C'est la séparation du rouge. Mer. La mer est elle personnifiée comme une personne, comme si elle avait peur de Dieu et courait loin. Et la mer regarda et s'enfuit, le Jourdain fit demi-tour. D'ailleurs, quand le Jourdain fait il marche arrière. Et ce que c'est dans le Pentateuque? Non, c'est le livre de Josué. Il est donc passé de l'Exode à l'entrée de la terre promise. Le Les montagnes sautent comme un agneau, enfoncent les collines comme des agneaux. Quand les montagnes secouées, c'était lorsque Dieu était sur le mont Sinaï. Souviens-toi des montagnes tremblant. C'est donc une description poétique dans les psaumes de l'Exode. Ici, ils chantons cela à la fête. Ensuite, ils chanteront le grand Hallel et ils feront ça jusqu'à ce jour. Ainsi, dans les psaumes, les prophètes, le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Exode, est importante et trouve un écho. Histoire de l'Égypte ancienne, enquête 31, 1-7, 37, 36. Maintenant, à quoi ressemblait l'Égypte? L'historien grec Hérodote a appelé l'Égypte, le dos du Nil. Et ce que l'un d'entre vous utilise déjà Google Maps? Avez-vous? J'ai déjà fait Google Maps pour regarder votre maison. Si jamais vous arrivez sur Google Maps, faites-le. L'Égypte et vous trouvez en Égypte, quelle couleur domine toute cette région? Un sable marron parce que vous avez un désert sur 1000 milles. Tu as du désert pour genre 2000 milles de côté. Et que se passera-t-il lorsque vous ferez vos Google Maps? Vous constaterez qu'il y a un mince ruban vert. Il y aura un énorme jaune brun, sablonneux. Zone brune et il y aura un petit ruban vert qui descendra. C'est quoi? Machine translated by Google. 14. C'est le Nil. Ils irriguent essentiellement à partir du Nil et vous verrez un petite bande de vert. En d'autres termes, l'Égypte est le dos du Nil. Tu prends le au-delà du Nil, où est l'Égypte? Nulle part. L'Égypte n'existe pas. C'est essentiellement là où l'eau et la vie se rencontrent. Maintenant, tout d'abord, premièrement, je ne veux pas que vous le sachiez. Je dis que non. Je veux que vous sachiez ceci, je vais juste passer en revue cela. Ceci est un résumé de tous. Histoire égyptienne. Ceci est le résumé Hildebrandt de l'histoire égyptienne. Sont quelques-uns de vous enlevant la vraie chose du professeur David Wick et des civilisations occidentales. Wick est phénoménal. Vous obtenez certains des meilleurs produits anciens du Proche-Orient. Un enseignement que l'on peut trouver n'importe où. Je me suis assis dans sa classe, j'ai compris ce que vous êtes. En entrant à l'université, j'avais des cours d'études supérieures qui n'étaient pas aussi bons que ceux du Dr. Wick. Fait. Ce gars est un professeur phénoménal. D'ailleurs, ça m'a toujours dérangé quand je s'asseyait au fond de sa classe et racontait les blagues les plus drôles et les étudiants restaient assis là et je rugissais. Il a un vrai sens de l'humour sec. Mais il raconte des blagues la moitié du temps en classe. Ce type est vraiment drôle mais vous devez vous y mettre. Je vais faire toute l'histoire égyptienne sur un seul écran. Maintenant je veux juste toi. Pour avoir une idée du flux de l'histoire égyptienne. Vous avez l'Ancien Empire, le Empire du Milieu et Nouvel Empire. Ce sont les trois royaumes d'Égypte. L'Ancien Empire commence vers 2700 avant J.C. et s'étend jusqu'à environ 2100, et c'est à cette époque que les pyramides ont été construites. Quel est notre rendez-vous pour Abraham? 2000 avant J.C. Les pyramides étaient-elles déjà construites quand Abraham était en Égypte? Oui. Abraham. Vu ça, les pyramides étaient déjà là avant l'époque d'Abraham, vers 2700. 2100 avant J.C. c'est le grand projet de construction. Ils ont construit tous ces énormes des choses. La première période intermédiaire, ces périodes intermédiaires vont être période de chaos. Les périodes intermédiaires sont celles où règne le chaos. C'est quand des étrangers arrivent et tabassent les Égyptiens indigènes, puis c'est le chaos. Alors la première période intermédiaire correspond en grande partie à la période où Abraham était là. Alors quand Abraham tombe, l'Égypte est-elle forte ou faible? Faible? Il y a du chaos là-bas alors il. Machine translated by Google. 15. S'adaptera à l'arrivée des étrangers. C'est donc la première période intermédiaire avec Abraham. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'empire du milieu. L'empire du milieu est ce avec quoi je travaille beaucoup lorsque je fais de la littérature de sagesse. Alors la sagesse de Amenemop, la sagesse de diverses personnes s'accompagne de beaucoup d'arts et littérature d'environ 1991 avant J.C. Certains d'entre vous se souviennent-ils de 1991? C'était en 1991. 1670 avant J.C. Quoi qu'il en soit, c'est la période de la littérature et c'est à ce moment-là que beaucoup de la littérature de sagesse se développe. C'est la période de construction. C'est la littérature. Période. Ensuite, vous avez une deuxième période intermédiaire. C'est à ce moment-là qu'Israël est en Égypte. Pendant la deuxième période intermédiaire, beaucoup de gens ont dit que le groupe Hyksos entre là et crée le chaos. Israël est là aussi. Est-ce que quelqu'un se souvient? Le texte qui dit le Pharaon qui n'a pas connu Joseph. En d'autres termes, Joseph était favorisé par le seul Pharaon, mais il y avait un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Les gens pensent que c'est l'invasion des Hyksos. Lorsque les Hyksos prirent le pouvoir, ils ne connaissaient les Juifs de personne, alors ils ont réduit les Juifs en esclavage. C'est donc le deuxième période intermédiaire. Le nouvel empire est une période d'expansion. C'est quand, quel est le problème avec l'Égypte? L'Égypte est-elle une culture très expansionniste? Non, l'Égypte était très provinciale. Tant qu'ils avaient leur Nil, étaient-ils heureux? Ils étaient comme les greniers du monde antique. Ils ont fourni du blé et de la nourriture à tout le monde. Autre. Ils ne sortaient pas beaucoup, je dis qu'ils n'étaient pas des conquérants qui sortaient tout le temps. Ils ressemblaient un peu à ce que je pense de la Chine. La Chine est-elle vraiment une grande? Un pays fort qui pourrait dominer de nombreux domaines. Mais la Chine, dans le passé, a fait. Ils ne dominent pas les autres peuples, ils sont plutôt provinciaux. Ils travaillent au sein de leur propre société. L'Égypte était un peu comme ça. Ils n'étaient pas expansionnistes. Sauf à cette époque où ils partirent et remontèrent en Mésopotamie. Mais, normalement, ce n'était pas ainsi. Finalement, après la période d'expansion du Nouvel Empire, il y a Machine Translated by Google. 16. C'est ce qu'il appelle la troisième période intermédiaire et cela se produit à peu près au même moment de David et Salomon, ce qui est vraiment intéressant. Ainsi, à l'époque de David et Salomon, l'Égypte est-elle forte ou faible? Faible. David et Salomon arrivent au pouvoir. Et leur royaume s'étend essentiellement parce que l'Égypte est faible. D'ailleurs, en même temps, la Mésopotamie était faible. Ainsi David et Salomon prospéreront parce que l'Égypte et la Mésopotamie étaient toutes deux faibles à cette époque. Donc le genre de flux pour Égypte, ancien empire, empire du milieu et nouvel empire avec ceci intermédiaire période de chaos entre les deux. Géographie de l'Égypte, de Goshen et du Sinaï 37, 3, 6, 4, 4, 22. Maintenant, regardons un peu une carte. Voici une carte sur laquelle nous voyons la mer Salée ou la mer Morte. En descendant ici, vous avez le golfe d'Aqaba, nommé d'après le ville d'Aqaba en Jordanie. C'est la mer Rouge. Ici, c'est le golfe de Suez. De quelle ville porte le nom ici? Ce golfe de Suez doit son nom à la ville de Suez ici. Le golfe d'Aqaba doit son nom à la ville d'ici qui s'appelle Aqaba. En Jordanie. Il l'appelle Ela du côté israélien. C'est la péninsule du Sinaï. Tu vois que c'est une presqu'île ici. Cette péninsule est comme une immense assiette ici et elle. En fait, cette partie ici s'est élevée et ensuite vous obtenez cette goutte dans la mer Rouge. Laissez-moi juste vous expliquer cela. En fait, je suis allé nager ici. Si je dis le nom Jacques Cousteau, ça veut encore dire quelque chose. Ce type était vraiment doué pour nager, mais il a dit que certains des plus beaux récifs coralliens du monde sont trouvés ici et je serai d'accord avec cela. Je n'ai pas son expérience, mais j'ai nagé ici. Laissez-moi juste vous parler du RAS Mohamed. Tu es en bas, à l'extrême pointe de cette péninsule du Sinaï et vous allez vous baigner. Alors toi, sors de l'eau, c'est si profond. J'ai grandi dans la rivière Niagara, donc je suis gentil comme un poisson. Donc l'eau ne me fait pas peur et j'aime nager. Donc je suis sortant. C'est à peu près jusqu'aux genoux, et vous faites un pas et l'eau est 600 pieds de profondeur. Oui. Tu te souviens que je t'ai dit que cette plateforme s'était élevée. Quand le plateforme soulevée. Puis il s'est effondré et il y a eu une chute de 600 pieds. Quoi? Ce qui se passe, c'est que vous êtes dans l'eau, donc vous flottez comme ça et là où vous êtes. Machine translated by Google. 17. Maintenant, il fait 600 pieds de profondeur. Quand vous regardez en bas, que est-ce qu'il y a là-bas? Ça va comme? C'est sainte vache, c'est vraiment profond. Je ne peux pas voir le fond, je veux dire, je ne peux même pas voir proche du bas. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que vous vous retournez et regardez ça. Falaise d'où tu viens de sortir et il y en aura de toutes sortes, je ne sais pas quoi. Le nom officiel est mais c'est comme les bernaches et tous ces poissons tropicaux qui sont poissons vraiment colorés. Nous nageons entre ces coraux et ces des bélones et tout ça et vous pouvez simplement flotter là-bas et observer ces poissons. C'est vraiment, vraiment cool. Maintenant, vous dites, oui. Vous regardez ces poissons et un requin arrive derrière toi, mais je n'ai vu aucun requin, mais il se peut qu'il en ait là. Quoi? Ce qui arrive, c'est que vous remontez à la surface et revenez sur la falaise et elle vous arrive jusqu'aux genoux. Alors c'est vraiment amusant. Quoi qu'il en soit, c'est le Sinaï et beaucoup de gens placent le mont Sinaï ici. Et si jamais tu as, en fait j'allais te le dire, si jamais tu as une chance d'avoir là-bas, c'est un territoire dangereux maintenant. Les terroristes font exploser des trucs là-bas. Maintenant? Donc quand j'y suis allé, c'était après la guerre civile, il n'y avait presque pas de route à l'époque. Maintenant, tout est construit. Les terroristes avaient fait sauter des hôtels deux ou trois fois. Fois là-bas. Bon, sortons d'ici. Donc c'est le Sinaï, alors venez ici. C'est le pays de Goshen, c'est Memphis. Je dis toujours que c'est Memphis parce que c'est là que le roi est enterré. C'est le Nil et le delta du Nil. Vous le saviez parce que c'est le terre de Goshen, qui va être importante pour nous. Qui va vivre dans le pays de Goshen. Les esclaves hébreux. Maintenant, même en Amérique, avons-nous des endroits appelés Goshen? Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler du Goshen College? Nous nommons ces choses. Après Goshen où les Juifs se sont installés là-bas en Égypte. Pourquoi les Égyptiens les ont-ils installés là-bas? Vous avez plusieurs choses en cours. Sur le peuple juif, quel est son métier par nature? Ce sont des bergers. Que sont les gens qui vivent le long du Nil? Les agriculteurs. Est-ce que les bergers et les agriculteurs s'entendent bien? Vraiment bien? Que se passe-t-il avec les bergers quand le berger amène une brebis? Machine translated by Google. 18. Chez toi et tu as une ferme, que font tes moutons? Manger la ferme. Plante. C'est comme si en Amérique, nous n'avions pas les éleveurs contre les agriculteurs. Amérique. Quand un gars amène sa vache et mange votre champ de maïs, c'est fini. Là-bas, ils ont eu le même conflit. Donc en gros, tu dis au berger de rester en dehors de ici et laisser les terres agricoles tranquilles. Encore une fois, l'Égypte était le grenier du monde antique et le blé était cultivé ici. L'autre raison pour laquelle ils sont là-bas, c'est que lorsque l'Égypte devient attaquée, comment l'Égypte peut-elle être attaquée? Ils semblent être plus provinciaux. Peu. L'Égypte est-elle attaquée par l'Ouest? Tous les Libyens ici disent qu'ils veulent battre sur Moubarak. Alors ils traversent le désert. Vas-tu traverser le désert? Attaqué par l'Ouest? Non, c'est 1000 kilomètres de désert. Même un à deux bosses. Camel ne peut pas faire celui-là. Vous n'allez donc pas venir par là. Personne ne peut. Vous attaqueront de cette direction, depuis l'Ouest. Eh bien, peut-être que quelqu'un va attaquer. Du Sud? S'il essayait de descendre le Nil, ce serait une bonne chose. Rafting en eau vive. Vous descendez simplement avec le courant. Quel est le problème? Dans cet endroit où tu as quoi? Cataracte. Maintenant, c'est peut-être amusant en eau vive. Un bateau de rafting, mais quand on a une armée, ce n'est pas bon. Donc en gros, ils sont coupés au sud par les cataractes qui les protègent. Est-ce que quelqu'un va venir les attaquer par le nord, à travers toute la Méditerranée, pour attaquer l'Égypte? Est-ce un long voyage à travers la Méditerranée? Allez-vous perdre des bateaux, des hommes et qui sait quoi d'autre tu vas perdre? Donc personne, d'ailleurs, tu les mets ici dans cette région du Delta. Que se passe-t-il lorsque leur terre est dans le marais? Eh? Quelqu'un connaît Williamsburg en Virginie? Tu les as mis dans un marais, quoi? Arrive. Il y a des moustiques. Que font les moustiques aux humains? Ils piquent. Et les infecter avec le paludisme? Les moustiques tuent-ils les gens? Oui. Williamsburg. Un tiers des gens sont morts. Alors, quelle était la seule direction à partir de laquelle l'Égypte pouvait être attaquée? Droite. Par ici depuis le nord est. Alors, où allez-vous mettre les Juifs? Mettez-les ici de cette façon lorsque vous êtes attaqués d'ici, qui seront vos attaquants? Machine translated by Google. 19. Faut-il d'abord tuer les Juifs de Goshen? Les Juifs deviennent une zone tampon. Alors Israël ajoute une protection, alors les Juifs peuvent être tués avant d'être réellement confrontés aux vrais Égyptiens. Cette terre de Goshen se trouve donc ici, et nous en verrons plus à ce sujet. Le pays de Goshen plus tard. C'est juste un bref aperçu de certaines choses. La persécution des Juifs par Monsieur Pharaon, les maîtres d'œuvre 44, 2247, 26. Examinons maintenant les méthodes utilisées par Pharaon pour dominer les Juifs. Dans Exode 1 et 2, vous comprenez ceci, je veux placer cela dans un contexte plus large. Quel est le plan de Dieu pour les Juifs? Permettez-moi de revenir devant les Juifs. Quel était le plan de Dieu pour toute l'humanité? Ils étaient dans le jardin d'Éden, Adam et Ève devaient travailler dans le jardin. Et on leur a dit de faire quoi? Multipliez, et faire quoi? Soyez fécondes et multipliez-vous. Et remplis la terre. La destinée de Dieu pour l'humanité était qu'elle se multiplie et remplisse le terre. Maintenant, que se passe-t-il? Dieu dit aux descendants d'Abraham qu'ils doivent faire quoi? Ils vont être quoi? Autant que le sable du bord de mer ou les étoiles des cieux. Ils doivent se multiplier et porter du fruit. Les descendants d'Abraham doivent. Soyez fécondes et multipliez-vous. Ainsi, la destinée de Dieu pour Adam et Ève est prise en charge par Abraham. Maintenant, qui s'y oppose? Il y a un gars nommé Pharaon, et Pharaon dit d'attendre une minute. Il y a beaucoup trop de Juifs que nous devons tuer. Ces Juifs. Il y a trop. Ils se multiplient trop. Pharaon s'opposera donc au plan de Dieu concernant la multiplication de la graine. Faire. Tu vois ça? Donc Pharaon va être en désaccord avec Dieu. Pharaon va attaquer le Fils de Dieu pour détruire le Fils de Dieu, et Dieu attaquera qui? Il va attaquer Pharaon, parce que Pharaon a attaqué le Fils de Dieu. Dieu éliminera-t-il le Fils de Pharaon? Vous voyez les similitudes ici. Pharaon tentera de détruire le Fils de Dieu, Dieu le prendra. Le Fils de Pharaon. Il résiste donc au plan majeur de Dieu pour Israël. Ce qui se produit. Comment Pharaon fait-il? C'est dans le chapitre 1 de l'Exode. Commençant au verset 8. Or Joseph et tous ses frères et toute leur génération moururent. Mais les Israélites furent fécondes et se multiplièrent considérablement et devinrent extrêmement nombreux, de sorte que le pays en était rempli. Puis un nouveau roi qui ne l'a pas fait. Je sais que Joseph est arrivé au pouvoir. Mais il dit, les Israélites sont devenus beaucoup trop. Machine translated by Google. 20. Nombreux pour nous. Venez, nous devons les traiter avec astuce. Ainsi donc, au chapitre 1, verset 11, ils placèrent sur eux des maîtres d'esclaves pour les opprimer par des travaux forcés. Et ils bâtirent les villes de Pithom et de Ramsès. Alors Pharaon dit qu'il y en a aussi. Beaucoup, ils se multiplient. Comment allons-nous faire baisser leur nombre? Nous allons asservissez-les, nous les opprimerons et nous les exploiterons au grand jour. Si nous travaillons à fond sur eux, auront-ils le temps d'avoir des enfants? Non. Ils vont être trop fatigués. Alors il met des maîtres d'œuvre au-dessus d'eux et les maîtres d'ouvrage. Les asservir, les opprimer. Israël est devenu esclave, ce qui rend la situation vraiment mauvaise pour Israël. Mais plus ils les oppriment, que arrive-t-il aux Israélites? Les Israélites deviennent plus forts. Ils travaillent dur et tout d'un coup ils deviennent plus forts. Et ils se multiplient d'autant plus. Sage-femme hébraïque 47, 2, 7, 5, 6, 27. Eh bien, cela n'a pas fonctionné, nous devons donc passer au plan numéro 2. Numéro de régime. La deuxième est d'aller voir ces sages-femmes. Permettez-moi de passer au chapitre 1, verset 15. Et le roi d'Égypte dit aux sages-femmes hébraïques, dont les noms étaient Chifra et Pua. Combien de sages-femmes sont nommées ici? 2. Connaissons-nous les noms de ces sages-femmes? Chifra et Pua. Vous dites, Ril de Brent, est-ce que tu t'en soucies vraiment? À propos de ça. Non, je ne le sais pas, mais ce qui m'intéresse, c'est que peux-tu me dire le nom de Pharaon? Comment s'appelle Pharaon? Pharaon est Pharaon. Est-ce ironique? Est-ce Aménémopée? Nous connaissons le nom du Pharaon où ce Pharaon vient-il simplement d'être nommé? Pharaon. Connaissons-nous les noms de ces sages-femmes hébraïques? Voyez-vous le ironie ici? Nous connaissons les noms des sages-femmes mais nous ne connaissons pas le nom des le Pharaon. Voyez-vous ce qui se passe avec le texte? Est-ce que Pharaon est dénigré par le fait qu'il n'a pas de nom mais ces deux sages-femmes ont des noms? Je pense qu'il y a un jeu littéraire ici avec ces sages-femmes. Alors que se passe-t-il avec ces sages-femmes? Il vient chez les sages-femmes et il dit ceci, lorsque vous aidez des femmes hébraïques à accoucher sur le tabouret d'accouchement, si garçon, tu le mets si c'est une fille, laisse-la vivre. Il s'agit d'une discrimination fondée sur le sexe. C'est terrible. Les garçons sont tués mais les filles survivent. Ce n'est tout simplement pas correct. Machine translated by Google. 21. C'est l'inégalité entre les sexes. C'est terrible. Ce n'est pas un problème parce que ce sont juste des garçons. Après tout, tu vois ce que je fais là. Avons-nous aujourd'hui des cultures qui sont en disant que les filles meurent et que les garçons vivent? C'est la même chose. Il y a pays qui le font actuellement. Donc je dis que c'est un gros problème. Ici quand ils tuent des garçons. Maintenant, que font les sages-femmes? Ces sages-femmes sont-elles intelligentes?
Les sages-femmes?
Cependant, ils craignaient Dieu et ne faisaient pas ce que voulait le roi d'Égypte.
Et ils ont laissé
les garçons vivre. Alors le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur demanda pourquoi.
Est-ce que tu as fait ça?
Pourquoi as-tu laissé les garçons vivre?
Puis les sages-femmes?
Répondit Pharaon, les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes.
Ils sont
vigoureuses et accouchées avant l'arrivée des sages-femmes.
Est-ce la vérité?
Les femmes hébraïques sont en effet différentes des femmes égyptiennes dans l'accouchement.
Processus.
Ces femmes mentent-elles au Pharaon, jouant sur les préjugés selon lesquels
les Juifs sont différents des Égyptiens.
Jouent-ils sur les préjugés envers
atteindre Pharaon?
Oui, ils sont.
Dieu bénit-il les menteurs?
Est-il acceptable de mentir parfois?
Certaines personnes appellent ça
péché altruiste.
Que dit la Bible à ce sujet?
Tu ne feras pas quoi?
Mensonge?
C'est un péché.
Dieu a-t-il béni ces femmes?
Oui, il l'a fait.
En fait, lorsqu'ils
allaient en Égypte, devinez qui part avec eux?
Shifra et Pua.
Ils pensent, c'est notre travail, nous allons accoucher d'autres bébés.
Alors ils sont partis avec eux.
Les Israélites et quand ils sont partis, Dieu les a bénis et ils ont eu une part en Israël.
Maintenant, la question se pose, comment comprenez-vous cela?
Cela va
revenir encore et encore, alors laissez-moi simplement vous dire comment je comprendrai cela.
Laissez-moi.
Je vous donne quelques exemples.
Il était une fois, nous vivions dans l'Indiana pendant environ
22 ans.
Mes enfants ont grandi dans l'Indiana.
Est-ce que quelqu'un
de l'Indiana ici?
D'accord, Indiana.
Vous devez comprendre que l'Indiana est différente
du Massachusetts, croyez-moi.
Dans l'Indiana, il n'y a qu'un seul sport.
Seulement eux.
Je pratique un sport dans l'Indiana et ce sport est le basketball.
Quand mon fils il était
en quatrième année, l'entraîneur du lycée le recherchait en quatrième année.
C'est un
machine translated by Google.
22.
Un entraîneur de lycée à la recherche d'un enfant de quatrième année.
Ils ont commencé à entraîner ces enfants à
basketball depuis leur naissance, je suis sérieux.
J'ai joué au ballon à
Rotten College, alors j'ai pensé que j'allais apprendre à mon fils à jouer au ballon.
Alors je l'ai sorti et j'ai pensé que tu sais, quand il sera plus grand, je le laisserai battre.
Moi.
Quand il sera en 9e ou 10e année, je le laisserai me battre.
Mais j'essayais de
travailler avec lui.
Quand vous avez un enfant qui est en 7e année, il y a la main droite et
gauche.
Quelle main est la plus faible?
Sa main gauche est faible.
Donc en gros, je voulais
développer sa main gauche.
Donc ce que je ferai, c'est le pousser dans un sens pour développer sa main.
Pour le forcer à aller à gauche.
Alors nous sommes en train de jouer et mon petit enfant,
un enfant de 7e année regarde son père et j'essaie de me positionner pour le forcer à le faire.
Va à gauche.
Il va comme ça.
En fait, il a essayé de me tromper.
L'enfant a essayé de tromper.
Comme s'il allait prendre une photo ou quelque chose comme ça.
Il a en fait lancé un faux
pour tromper son père.
Petit coquin trompeur.
Je monte pour l'écraser mais ensuite il s'en va.
Autour de moi.
La tromperie du père est la pire des choses.
Il m'a menti.
Était là.
Intention de tromper.
Y avait-il une intention de tromper son père?
Il y avait l'intention de
tromper.
Maintenant, question, vous riez parce que vous dites qu'au basketball, est-ce que c'est bien d'avoir
l'intention de tromper?
En fait, la majeure partie du jeu consiste à lancer des contrefaçons.
Partie 2.
Le football, c'est la même chose.
Tu leur fais penser que tu vas dans un sens mais tu y vas
revenir dans l'autre sens. Au fait, en temps de guerre, est-ce la même chose?
L'Amérique entre.
Koweït.
Nous avons toutes nos troupes et c'est toutes nos troupes qui allaient par là et...
Alors devinez quoi?
Les généraux les simulent parce qu'ils vont exactement à l'opposé.
La façon dont ils semblent aller.
Est-ce que cela fait partie de la guerre?
Tu fais semblant comme si tu allais le faire.
Faites une chose, puis vous allez dans l'autre sens.
Cela fait donc partie de la guerre.
Il faut se demander dans le cas des sages-femmes hébraïques, est-ce que ça va
mentir quand quelqu'un va tuer des bébés?
Permettez-moi de le replacer dans un autre contexte.
Supposons que vous soyez en Allemagne ou en Hollande et que vous ayez un groupe de juifs dans votre
sous-sol et les nazis viennent à votre porte et disent « Avez-vous des juifs ?»
Machine translated by Google.
23. Vivre ici. Eh bien, j'y suis chrétien et j'ai jure de ne jamais mentir. Ways, ils sont.
Là-bas, au sous-sol. Alors le gars te demande d'emblée, as-tu les juifs?
Là-dedans?
Vous dites, oui, ils sont là.
Est-ce une grande atrocité que vous
participez à?
Diriez-vous, voulez-vous tenir, je vais les chercher.
Tu as
la même chose dans un contexte de guerre.
Quand ils veulent tuer quelqu'un, est-ce que tu
trompes?
Est-ce que cela fait partie de la citation, je?
Vous dites, Hildebrandt, êtes-vous en train de dire?
C'est bien de mentir à chaque fois.
Cela soulève la question suivante, Dieu bénit-il les menteurs?
Et?
La réponse est, Dieu a et il bénit les sages-femmes hébraïques.
Oui, il l'a fait.
Ont-ils eu peur?
Dieu.
Est-ce pour cela qu'ils l'ont fait?
Ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils craignaient Dieu.
C'est comme si
quelqu'un va venir à votre porte et dire que je vais tuer votre famille.
Où sont tes fils?
Où sont-elles?
Et vous dites, eh bien, ils se cachent dans le
couche-toi là.
Ce n'est pas bon.
Vous dites, non, je ne vais pas faire ça et vous êtes.
Je vais leur dire quelque chose de différent.
Cela signifie-t-il un relativisme total?
Vous dites, Hildebrandt, est-ce que tu ouvres
à l'éthique que la situation détermine ce qui est bien et mal.
La Bible.
Dire clairement que mentir est mal.
La Bible dit elle clairement, tu ne mentiras pas.
Et le.
La Bible est elle cohérente en disant cela dans toutes les Écritures.
L'intégrité et l'honnêteté sont elles vraiment
caractéristiques importantes.
Cela étant dit, existe-t-il certains contextes dans le
préservation de la vie que vous utilisez des tactiques trompeuses?
Oui.
La guerre en fait-elle partie?
Contexte.
Fondamentalement, ce que vous avez est une guerre en cours ici auparavant avec Pharaon.
Je pense donc que le problème des sages-femmes hébraïques était juste.
Dieu le regardait.
Les bénit.
Donc je dis que ça n'ouvre pas une boîte de Pandore de dire, oh, j'ai menti à
ma mère parce qu'elle allait vraiment se mettre en colère et je ne voulais pas la forcer.
Je me sens mal alors je lui ai menti pour la protéger d'elle-même.
Ok, ça fait un tas de
balivernes.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut tenir compte du contexte.
Tu vois
l'importance du contexte.
Les sages-femmes hébraïques, dans la crainte de Dieu, ont trompé
Pharaon et eux en furent bénis.
Le Nil et Moïse 56, 2860, 34.
Maintenant, le dernier, que se passe-t-il ici?
Continuons à travers cela.
Pharaon.
Machine translated by Google.
24.
Dit, d'accord, cette histoire de bébé ne mène nulle part.
Ne laissons pas les sages-femmes le faire.
Ce.
Jetons les bébés mâles dans la rivière.
Au fait, le Nil est il.
Un dieu.
Alors en jetant les bébés dans la rivière, y a-t-il des créatures dans le Nil?
Vous jetez les bébés là-dedans, les bébés sont-ils impuissants?
Les bébés sont impuissants.
Tu lances
dans la rivière et le bébé va se noyer et s'il ne noie pas l'un des
Les crocodiles ou tout ce qu'ils ont là-bas vont les attraper. Sont là. Les lamantins dans le Nil, le savez-vous? Je ne sais pas que tu m'as eu là-dessus. Truc de lamantin maintenant. Mais de toute façon, les bébés mouraient. Maintenant, ce qui est vraiment cool ici, c'est que Pharaon utilisait le Nil pour détruire les nourrissons. Comment Dieu utilisait-il le Nil? Dieu utilisait-il le Nil pour délivrer Moïse? La chose même que Pharaon essayait d'utiliser pour détruire les enfants. Dieu le tourne et l'utilise lorsque Moïse flotte sur la rivière, livraison spéciale. Dans les bras de la fille du Pharaon. Tu te souviens comment ils ont fait ça? Boîte 10 ans et ils l'ont enduit de goudron et y ont mis Moïse. Il descend la rivière. Et la fille de Pharaon ramasse la boîte et dit, je dessine ce bébé. De l'eau. Alors elle le nomme, étiré, ce qui signifie que ce qui est étiré est moché. Moche pour vous les gars, c'est Moïse. Ainsi, Moïse signifie tiré. Son nom est fondamentalement celui qui est sorti de l'eau comme ceci et son nom devient Moïse. Elle le ramasse et dit, ce doit être l'un des Hébreux. Enfant. Maintenant, comment savait-elle qu'il s'agissait d'un enfant hébreu? Est-il possible que il était enveloppé dans une sorte de tissu qu'auraient confectionné les Hébreux? C'est possible qu'il ait été enveloppé dans un tissu distinctif différent des autres des cultures. C'est possible. Et il est également possible qu'il y ait d'autres possibilités. Oui. Elle ramasse l'enfant et dit, Sainte vache, cet enfant est déjà circoncis. Elle a donc peut-être associé cela aux Juifs. Maintenant, qui est là et dit, je peux m'occuper de ce bébé pour toi. Tu as besoin d'une babysité. Oui, Myriam, la sœur aînée de Moïse. La suggestion ici est que la fille de Pharaon aurait suggéré que le dieu fleuve venait de fournir. Elle est peut-être qu'elle était stérile ou quelque chose comme ça et la déesse ou le dieu du Nil. Machine translated by Google. 25. Venez de lui présenter ce bébé. Cela semble être une possibilité probable quant à la façon dont elle l'aurait compris de son point de vue. Maintenant, ce que nous savons, c'est que c'était Jéhovah qui l'a envoyé là-bas. Est-ce que tu vois ça? J'essaie de reviens sur ce sujet. Voyez-vous Dieu qui prend ce qui est mal et le transforme? Trop bien. Pourquoi est-ce important? Quand ta vie s'effondre et est vraiment mauvaise. Des choses vous arrivent, ce que je veux vous dire, Dieu peut prendre ces mauvaises choses et donnez-lui quelques années et Dieu prendra la pire chose qui vous soit jamais arrivée. Votre vie est tout d'un coup, changez-la pour de bon. Vous dites, Ril de Brent, ça ne peut pas. Ce truc est si mauvais pour moi, mais je veux vous raconter certaines des pires choses de votre vie, Dieu changera et ce seront en fait les choses qui deviendront les le plus important dans le processus de rédemption pour vous. Je dis ça maintenant et nous y allons. À travers des situations dans notre propre famille maintenant et j'ai vu cela se produire encore et encore. Et encore et encore. Alors quand des choses vraiment mauvaises commencent à arriver, je veux te dire de commencer. Levant les yeux parce que Dieu est à l'œuvre. Maintenant, vous ne le comprenez peut-être pas et franchement. Vous ne comprendrez peut-être pas avant 2 ou 3 ans, voire plus, mais Dieu est à l'œuvre. Et quand une catastrophe survient, levez les yeux. Aslan est en mouvement. 3 étapes de la vie de Moïse 60, 3, 5, 6, 3, 30. Maintenant 3 étapes de la vie de Moïse. Ce sont assez simples. Pour le. Durant ses 40 premières années, Moïse a d'abord été élevé par sa propre famille. Donc par sa sœur Myriam, il aurait été formé. C'était des Hébreux et des Lévites. Une fois qu'il est probablement devenu majeur, vous bénéficiez de ces rites de passage. Vous savez quoi? Je parle de ces rites de passage. Pour les enfants juifs, les rites de passage. À l'époque de l'adolescence, avez-vous déjà entendu parler de la Bar Mitzvah? Une partie de Vous avez peut-être eu la confirmation et ce que quelqu'un est passé par la confirmation. Toi. Sachez qu'à 12 ou 13 ans, vous êtes le bienvenu dans le monde des adultes. Donc là. C'est ce passage de l'enfant à l'adulte via ces rites de passage. Au fait, est-ce que différentes cultures ont des rites de passage différents? Il est donc élevé, ou élevé par la fille de Pharaon comme son fils. Aurait-il été très lettré? Aurait-il été formé à la littérature de sagesse égyptienne? Oui. Moïse aurait été très machine translated by Google. 26. Hautement qualifié. Et il est levé par sa famille ou par la fille de Pharaon. La réponse est, oui. Les deux ont raison. Très tôt dans sa vie, il a été élevé par sa famille. Mais pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, il fut élevé par la fille de Pharaon. Oui, c'est la première étape de sa vie, 40 ans là-bas. Les 40 dernières années de sa vie, il sort et il est berger à Madian. Au fait, quand vous pensez à un berger, pensez-vous à un gars sur le flanc de la colline, à surveiller ses moutons. Tu te rends compte à quel point c'est ennuyeux. Avez-vous déjà vu des moutons? Je veux te dire que je n'ai pas beaucoup vu de ma vie. Animal le plus bête. Je vous emmène juste près du Bradley Palmer State Park, le gars a des moutons. Ils sont stupides? Vraiment stupides? Non, il y a des animaux qui le sont vraiment intelligents. Existe-t-il des chiens vraiment intelligents? Oui. Ils comprennent presque ce que tu es. En disant. Les moutons sont tout le contraire. Quand tu es là-bas à les regarder jour après une journée dans le désert, est-ce vraiment un travail vraiment ennuyeux? Alors quand tu penses à ce truc de berger, faites attention à ne pas l'idéaliser. C'est un travail vraiment dur. Moïse est dans le désert comme berger ici depuis 40 ans à Madian. C'est là qu'il épouse Zippora, sa femme, a des enfants pendant qu'il est à Madian. Madian est Sinaï. C'est dans le désert du Sinaï et la tribu avec laquelle il était celle des Madianites. Avec Jéhéro, qui est le prêtre de Madian. Maintenant, Dieu l'appelle et lui dit de revenir du désert et d'être un libérateur pendant 40 ans, puis Moïse conduit alors les brebis d'Israël à travers le désert. Maintenant, il est berger d'Israël. Alors il ramène ses brebis pour Israël et conduit les traverse le désert et les fait sortir. Donc il y a ce jeu sur les différents types de moutons. L'appel de Moïse 63, 3 1 7 2, 30. Maintenant, regardons à quoi ressemblait la relation de Moïse avec Dieu et voici. Chapitre 3 et 4. Avec beaucoup de personnes dans la Bible, vous allez avoir cette vocation, ou appel, où Dieu vient et appelle un prophète à son service. Moïse va recevoir un appel de Dieu, et je veux juste voir comment Moïse et Dieu interagit ici. Machine translated by Google. 27. Mais avant de faire cela, je veux intervenir ici juste pour dire pourquoi Dieu a-t-il fait Exode. Pourquoi Dieu les a-t-il délivrés à ce stade? Le texte nous dit que Dieu vient et dit qu'il va les délivrer grâce à leur prière. Ce que je suis. J'essaie de vous suggérer avec ce verset que je vais vous lire ensuite, c'est que la prière est extrêmement puissante. Tout l'Exode est motivé par l'Israélite. Prière et le voici, le Seigneur dit, au chapitre 3 verset 7, j'ai effectivement vu le misère de mon peuple en Égypte. Je les ai entendus crier à cause de leurs esclaves conducteurs et je suis préoccupé par leur souffrance, alors je viendrai à leur secours. Il a entendu leurs cris, leurs appels à l'aide, et il dit, je vais descendez et sauvez-les. La prière fait une différence. Dieu écoute et vient vers le bas. Maintenant, ce qu'il fait, c'est que nous devons avoir un libérateur. Et ce que tout va bien pour toujours. Résister à la volonté de Dieu. quand Dieu appelle une personne, et ce que cette personne résiste toujours à l'appel de Dieu. Moïse sera l'une des figures les plus marquantes de l'Ancien Testament. Allons regardez son appel et comment il réagit lorsque Dieu vient à lui. Beaucoup pensent qu'il le ferait. Dites, Dieu, quelle que soit ta volonté pour ma vie, je veux juste te suivre. Dieu prend juste moi et utilise-moi pour ton service. Et c'est ce que dit Moïse. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait ce qui est dit ici dans nos Bibles. Dieu vient à lui au chapitre 3 et au verset 11. Voyons simplement l'interaction entre Dieu et Moïse. Dieu descend et dit que je vais faire sortir mon peuple d'Égypte. Avec un bras fort et une main tendue, mais Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour que dois-je aller voir Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et Dieu dit, je serai avec vous. Et ce que Moïse saute dessus et dit, d'accord, Dieu, amenons-les hors d'Égypte. Non, dit Moïse, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Dieu dit, ce n'est pas qui tu es, je serai avec toi. Quel est le nom de, je serai avec toi? Quel est le terme hébreu? Est-ce que quelqu'un connaît un terme? Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ainsi, quand Dieu dit, je serai avec toi, c'est Emmanuel. Dieu dit, Moïse, je sais que tu ne peux pas faire ça en allant voir Pharaon, mais je le ferai venir avec toi. Et Moïse dit, Dieu, si tu es avec moi, qui peut être contre? Machine translated by Google.
28. Moi. Allons y. Non, il n'y fait pas si et non plus. Il recule encore et la prochaine fois.
Il dit ceci, et c'est au chapitre 3 verset 13 et suivant. Moïse dit, supposons. Je vais vers les Israélites et je leur dis que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et ils me demandent quel est ton nom. Alors que dois-je leur dire? Moïse dit. Excusez-moi mon Dieu, je ne connais pas votre nom. Salut, je m'appelle Moïse, quel est ton nom? Je ne connais pas ton nom. Maintenant, je dois leur dire que j'ai rencontré un Dieu dans le désert. Ils vont penser que je suis déshydraté et que mon cerveau a disparu. Quel est ton nom? De toute façon, je ne connais même pas ton nom. Au fait, est-ce une grande chose de demander à Dieu à propos de son nom? Oui. Que dit Dieu? D'abord, il y a un buisson qui brûle et qui sort de ce buisson. C'est brûlant que vient cette déclaration. Dieu a dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » C'est ce que vous devez dire aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Maintenant, que est-ce que c'est? Je suis ce que je suis. Vous dites, « Attendez une minute, île de Brent, vous avez ceci ici. Peu. Tu prononces ça pour moi. Quel est le problème? Pourquoi tu ne peux pas prononcer ça? Il n'y a pas de voyelle. Les Juifs ont-ils volontairement laissé tomber les voyelles pour que cela ne puisse pas être prononcé? Pourquoi ont-ils fait ça? Voulaient-ils le nom de Jéhovah prononcer? Non, parce qu'ils ont peur que les gens prennent le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Alors ils ont supprimé les voyelles pour qu'on ne puisse pas le dire. Maintenant, au fait, si vous voulez insérer des voyelles, il y aura ici un « a » et un « e ». Ici il disait « Jéhovah ». Quelqu'un a-t-il entendu ce terme? Le « a » serait être ici donc ce serait « Yahweh » et le « e » serait entre le « w » et le « h » d'accord. Ce serait donc « Yahvé ». Le « w » peut ressembler à un « v ». Et c'est le nom le plus sacré de Dieu. C'est le nom, je suis celui que je suis, et nous examinerons ça dans une minute. Désormais, Moïse reçoit le nom le plus sacré de Dieu, je suis ce que je suis. Fait. Moïse suit Dieu. Non, il invente une autre excuse. Il dit, et, si je descends. Là, chapitre 4 verset 1, Moïse a dit, et s'il ne me croit pas ou n'écoute pas. Et dit que le Seigneur ne t'est pas apparu. que est ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton, un bâton. Dieu dit, jetez-le par terre. Machine translated by Google. 29. Que arrive-t-il à ce personnel? Cela devient un serpent. Maintenant, que va-t-il se passer quand il ira en Égypte? Que sont les magiciens vont faire? Ils vont faire la même chose. Quel serpent va manger les autres? Moïse va les manger. Ce serpent est-il un symbole en Égypte? Avez-vous déjà vu le chapeau de Pharaon, le chapeau que portent les pharaons? Que est ce qui sort sur le devant du chapeau de Pharaon? C'est un cobra, un serpent. Alors que est ce qui se passe? Voici un jeu de pouvoir en cours entre Jéhovah Dieu et Pharaon. Le serpent de Pharaon va être dévoré par celui de Moïse. Donc ce que vous avez, c'est le jeu de pouvoir entre Moïse et Pharaon, et Dieu va vaincre le serpent de Égypte. Moïse ne veut toujours pas céder. Alors Moïse commence ensuite, il commence, mais mon Dieu, je ne peux pas très bien parler. Beaucoup de gens pensent que Moïse était un bègue, qu'il ne pouvait pas parler correctement. Certaines personnes pensent qu'il bégayait alors que d'autres pensent qu'il parlait de compétences rhétoriques avec lesquelles il parlait. Mouton trop longtemps et il se rend compte que lorsque vous entrez dans la cour de Pharaon, vous devez avoir ses compétences rhétoriques et toutes ses compétences rhétoriques avaient disparu depuis longtemps. C'est donc soit l'un des ces deux-là. Alors Dieu vient vers lui et lui dit, Moïse, qui a fait ta bouche? J'ai fait ta bouche et si je veux, je peux faire parler un âne. Mais Moïse ne le fait toujours pas. Abandonné. Finalement, au chapitre 7, Moïse dit, d'accord, mon Dieu, je ne vais pas y aller. Envoyez quelqu'un d'autre. Encore une fois, voyez-vous la résistance et la réticence de Moïse? Il est tellement réticent à suivre Dieu, c'est ce que je dis. Méfiez-vous des gens qui prétendent aller simplement suivre Dieu et faire sa volonté selon le désir de leur cœur. Voici Moïse, l'un des plus grands hommes qui ait jamais vécu, et voyez-vous ce qu'il fait. Tout ce que je suis. En disant, soyez prudents, nous avons beaucoup de vantardises dans notre culture aujourd'hui. Quand quelqu'un fait face au vrai Dieu, vous n'êtes pas là en disant, oui, je vais le faire. En fait, vos chaussures sont enlevées et votre visage est au sol. Alors soyez prudent avec ça. Moïse dit, envoyez quelqu'un d'autre. Que fait Dieu? Et, Moïse, tu? J'ai un frère, Aaron. Il est en route maintenant pour vous rencontrer. Je sais que tu ne peux pas. Machine translated by Google. 30. Bien parlé. Alors je vais vous dire ce que vous allez faire. Toi, Moïse, tu es. Je vais parler à Aaron. Alors Aaron sera votre prophète. Qu'est-ce que ça signifie? Il met en place une structure. Alors que Dieu parle aux prophètes et aux prophètes. Parle au peuple. Alors maintenant Moïse va parler à Aaron et Aaron va pour parler au peuple. Cela nous indique donc quel est le rôle du prophète. Le rôle du prophète est de prononcer la parole de Dieu. Maintenant, Moïse va être comme un Dieu pour Aaron et Aaron vont parler. Alors que vous comprenez cette structure prophétique et Aaron sera comme un prophète pour Moïse. La signification de Yahweh, je suis ce que je suis, 72, 3, 1, 7, 6, 30. Maintenant, le buisson ardent se produit ici. Le buisson brûle mais le buisson est pas consommé. Alors que se passe-t-il? Il s'approche du buisson ardent et quoi arrive? Vous êtes sur une terre sainte, enlevez vos chaussures, vous êtes sur une terre sainte. Sol. Nous étudierons la sainteté lorsque nous aborderons le livre du Lévitique, mais c'est un endroit sacré. C'est un endroit spécial car cette terre est sacrée. Enlève ton chaussure, vous êtes en terre sainte. Maintenant, que signifie ce « je suis ce que je suis » ? Ce à quoi je veux m'attaquer, c'est le nom le plus sacré de Dieu, le nom Jéhovah. Que est-ce que ça veut dire ? Trois suggestions, le nom vient de l'âne. Si je dis « âne, savez-vous tout ce que c'est ?» Proche-Orient ancien. Érudit de l'Ancien Testament. Utilisez cette abréviation pour le Proche-Orient ancien. Les noms constituent-ils une partie importante du dimension du Proche-Orient ancien? Les noms ont-ils une signification? Hébreu a changé pour Abraham, Jacob a changé Israël, Joseph s'est nommé Joseph, Moïse signifiant, tiré dehors. Les noms signifiaient quelque chose à l'époque et Dieu lui donne ce qu'il a de plus sacré. Non. Certaines personnes pensent que le nom de Dieu signifie « je suis ce que je suis ». Que Dieu est. Disant depuis le buisson, « je suis ce que je suis », que Dieu est celui qui existe par lui-même. Et moi. Je suis ce que je suis, c'est accent grave dire que le buisson est en feu mais le buisson ne brûle pas. Dieu fait. Pas besoin que le buisson le consume pour être un feu. Dieu est un feu en lui-même. Il a besoin. Rien. Au fait, avons-nous besoin de quelque chose pour notre existence? Commençons. Avec de l'eau et de la nourriture. Nous avons besoin de quelque chose pour notre existence. Dieu n'a besoin de rien pour. Machine translated by Google. 31. Soutenir son existence. Il est celui qui existe par lui-même. Il est qui il est. Je suis ce que je suis, il n'a besoin de rien, c'est une façon de le prendre. Une deuxième façon de voir les choses, c'est David Freeman, ce type était sorti de Harvard et Université du Michigan, il défend le point de vue de la souveraineté. Il le prend comme un imparfait. Tant en hébreu. Cela pourrait se traduire littéralement, je serai ce que je serai. Moïse demande, quel est ton nom ? Et il dit à Moïse, « Je serai ce que je serai, toi. Je verrai qui je suis. » Dieu déclarera qui il est par les grands miracles qu'il accomplit. En Égypte. Dieu rebutait un peu Moïse ici, « Vous verrez qui je suis. » Quand je fais tous ces miracles en Égypte. C'est le deuxième point de vue. J'ai dit que c'était probablement le moins probable à mon avis. Troisième interprétation, c'est celle où Dieu dit ici, « Je suis ce que je suis. J'ai dit que je le serai. » Si vous lisez la partie suivante du passage ici, Dieu a dit à Moïse, « Je sauverai les Israélites, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Il est donc le Dieu des pères. Dieu va maintenant pour garder ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Il va maintenant donner leur la terre promise et la semence. Dieu est le gardien de l'alliance et Dieu est tenir sa promesse. Donc ce nom Yahweh ou Jéhovah signifie que Dieu est le alliance gardant Dieu. Il tient parole et Moïse va voir que Dieu est. Maintenant je vais faire ce qu'il a promis. Dieu est le gardien ultime des promesses. Maintenant son non Jéhovah / Yahweh sera qu'il va tenir sa parole envers le patriarche. Contradiction d'Exode 6, 3. 76, 3 1 7 8, 44. Maintenant, pourquoi la Bible se contredit-elle? Dans Exode 6, il est dit ceci, dans verset 3, Dieu dit aussi à Moïse, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu Tout-Puissant. » Que veut dire Dieu Tout-Puissant? El Shaddai, avez-vous? Avez-vous déjà entendu cette chanson, El Shaddai? Il dit, Abraham, Isaac et Jacob savaient. Moi sous le nom d'El Shaddai, ils ne me connaissaient pas sous le nom de Yahweh. Ils ne connaissaient pas mon nom. Jéhovah. Mais quel est le problème? Quand vous revenez à Genèse 49, 18, vous avez Jacob disant ceci, « J'attends ta délivrance, ô Éternel. » Comment s'écrit Seigneur? Machine translated by Google. 32. majuscule, L, majuscule, O, majuscule, R, majuscule, D. L'or est entièrement en majuscule, c'est un. Substitution à Yahvé barre oblique Jéhovah. Quand tout est en majuscule, cela signifie l'hébreu. Le mot derrière est Yahvé. Donc tout est en majuscule. D'ailleurs, s'il ne s'agit que d'un petit L, ça veut dire quoi? Cela signifie Seigneur dans le sens de Monsieur ou Maître ou quelque chose comme ça. Mais Jacob dit, Seigneur, je cherche ton délivrance, ô Éternel, et il utilise le nom de Jéhovah. Alors que se passe-t-il? Ici Exode 6, 3 nous dit qu'Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas le nom de Dieu. Jéhovah, mais pourtant nous voyons Jéhovah utilisé par Jacob dans la Genèse. Et ce, une contradiction dans Écriture. Nous n'avons plus de temps, alors nous allons simplement laisser mijoter cette contradiction, et la prochaine fois, nous y reviendrons. Transcrit par Taylor Berube. Brut édité par Ted Rildebrandt II.